Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Peuple algérien.
Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie.
Un accord général vient d'être conclu à la conférence d'Évian.
De Sétif à Évian, neutralité et engagement.
Pour que l'Algérie reste française.
L'Algérie n'était pas la France.
Les négociateurs suisses favorisaient les entretiens secrets.
Une pratique que je réprouve.
L'usage de la torture.
Mais comme vous ne voulez pas parler, je suis obligé de le faire.
57, il se passe quelque chose en Suisse.
Le procureur général de la Confédération s'est suicidé.
Les accords d'Évian ne sont pas appliqués parce qu'il y a l'OAS qui fait la guerre à tout va.
L'engagement de certains ressortissants suisses dans différents groupes de l'OAS.
Et je suis sûr.
Il y a des dissidents algériens qui ont pris le trésor du FLN et l'ont sorti des banques suisses.
Que les haines iront en s'effaçant.
Comment la Suisse aura-t-elle intercepté ses ressortissants sur sol algérien au moment de la guerre d'indépendance? Quelles sont les recommandations de Berne? En quoi la question de l'enrôlement des Suisses dans la Légion va-t-elle poser problème? Quelle surveillance policière va s'exercer sur le territoire? Qui va la subir? Quel scandale couve derrière l'affaire Dubois? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées avec notre invité d'aujourd'hui. Au cours de l'entretien, il y aura quelques perturbations sonores qui ont eu lieu pendant l'enregistrement. La plupart ont été enlevées, mais il était impossible de tout ôter. Nous nous en excusons auprès de vous ainsi qu'auprès de notre invité qui se présente à vous.
Alors moi, je m'appelle Damien Caron et je suis docteur en histoire. J'ai travaillé pendant longtemps à cette thèse publié de maintenant. C'est un sujet qui m'a accompagné pendant toutes ces dernières années, pendant à peu près 10 ans. Voilà, maintenant je suis un peu sorti de cette thématique pour prendre d'autres activités, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste présent, qui revient généralement à chaque anniversaire d'un événement lié à cette guerre d'indépendance.
Quel est, Damien Caron, votre premier contact, s'il vous faut revenir au moins une décennie en arrière, avec le sujet? Quelle est l'occasion, quelle est la nature de la première rencontre?
Alors la rencontre première s'est passée aux Archives fédérales à Berne. J'avais commencé, après mes études d'histoire, un travail aux documents diplomatiques suisses, ce groupe de chercheurs qui publie des documents d'État, les papiers d'État, sous forme électronique et sous forme papier. Et j'avais repris les dossiers France, Afrique et Moyen-Orient. Et c'est en ouvrant les cartons que je me suis aperçu de la richesse des sources qui venaient de s'ouvrir à l'époque. On était à 50 ans, c'est l'ouverture de certains cartons, et 35 ans pour d'autres, 30 ans pour d'autres. On avait une richesse incroyable qui n'avait pratiquement jamais été encore utilisée. Donc c'est une découverte d'un sujet et de ses multiples facettes. Et j'ai commencé à creuser et puis je me suis aperçu qu'il y avait une chose à faire, il y avait beaucoup de choses à travailler. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire la lecture, quand j'ai commencé à lire des ouvrages qui sont notamment à l'époque encore beaucoup d'ouvrages français, je m'apercevais que la Suisse n'apparaissait absolument pas.
Absent.
Donc il y avait une dichotomie entre ce que je voyais dans les sources suisses, l'importance de cette guerre d'indépendance et la réelle existence de ce phénomène suisse, enfin, de ce rôle ou de cette... Ce côté-là n'était pas tellement pris en compte.
Sans rien dévoiler de votre vie privée, vous me paraissez encore bien jeune. 10 ans en arrière, voire plus, vous êtes encore plus jeune. Est-ce que le jeune historien que vous êtes alors se dit « ça y est, j'ai mon truc à moi ».
En tout cas, la réaction a été suffisamment forte pour me faire changer de sujet de thèse. Après une année...
Vous étiez sur quoi?
Alors, je sortais d'un travail de mémoire qui touchait la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment des catholiques allemands. J'avais fait une partie de mes études en Allemagne. Et la répercussion de certaines prises de position de la hiérarchie catholique allemande contre le nazisme en Suisse. Donc j'avais un peu retravaillé les réseaux en Suisse. Et j'étais parti un petit peu dans une continuation de ces recherches-là. Et j'ai été accompagné par ces deux sujets pendant une année. C'était un peu un tiraillement entre continuer quelque chose que j'avais dans lequel j'avais investi déjà 2 ou 3 années de ma vie. Et puis, après, je me suis rendu compte qu'en travaillant aux archives à Berne, une partie de mon travail était de travailler ces sources-là de toute façon. Donc voilà, le choix a été fait après une année.
Alors souvent, les archivistes parlent en kilomètres. Est-ce que là, on a affaire à des kilomètres? On n'est pas obligé d'avoir la mesure exacte, mais est-ce que quand vous dites « je suis vraiment devant beaucoup, beaucoup, beaucoup », c'est pour s'en faire une idée pour nous?
C'est des centaines de cartons. Les résultats des sources que j'ai à la maison, donc je reprendrai une phrase de ma femme, elle, pour elle c'était le mur de Berlin, j'avais ça dans des classeurs fédéraux gris qui prenaient 1 ou 2 bibliothèques, et c'était un peu la pesanteur du mur à la fin. Et ça, c'est sans compter ce que j'avais en fait en format électronique, parce que toutes les recherches que j'ai menées à l'étranger, je les ai fait en format électronique, donc des photos, des milliers de photos, des milliers de pages. Voilà, c'est assez énorme. C'est la grande difficulté, en fin de compte. Des fois, on n'a pas assez de sources, et là, on en avait trop.
Ouais, on va y venir, à cette difficulté-là de tamisage, en quelque sorte. Vous avez infligé ça à votre femme, déjà?
Pas du début à la fin, quoi.
Ah oui. Ouais. Le premier jour, le premier carton, la première ouverture, vous l'avez en tête, celle-là? Disons, on va dire, la première émotion, peut-être.
Alors, ça remonte en 2002 maintenant. Donc, ça fait quelques mois après les premiers cartons. C'est quand j'ai commencé à travailler sur les dossiers des légionnaires suisses qui étaient engagés dans cette guerre. Et là, j'ai vu.
Qui
sont nombreux, oui. C'est difficile à quantifier. Donc, déjà, la Légion en elle-même ne donne pas tellement de chiffres exacts de qui vient s'inscrire chez elle et combien ils sont.
C'est la super grande muette, là.
C'est un état dans l'état, voilà. On va le dire, au niveau de la. Il suffit qu'un Français se déclare Suisse-Allemand au moment où il s'inscrit, il est inscrit comme Suisse-Allemand. Donc, un Alsacien peut passer pour un Suisse-Allemand. Donc, voilà, c'est très difficile. Donc, il y a eu des recoupements. Moi, je me suis basé sur les dossiers des procès. En Suisse, chaque fois qu'un jeune Suisse s'engage dans une armée étrangère, il y a un dossier qui est ouvert par la justice militaire. Et ensuite, il y a un procès qui sera fait, en sa présence ou non, mais il y a toujours une trace. Et il suffit de retrouver les numéros. C'est aussi un peu un jeu de piste, mais il faut retrouver les numéros dans cette cartothèque. Il y a le numéro 91 sur la carte. On sait que c'est un procès militaire. Puis ensuite, il faut aller dans ces procès pour voir s'ils étaient, oui, dans quel pays ils ont officié, on va dire.
Émotion, donc.
Alors cette émotion-là, elle était forte parce que je me rendais compte qu'il y avait des jeunes Suisses qui avaient été engagés sur le front et qui faisaient partie de ces troupes qui avaient commis des actes de torture. Et au début, donc 2002, c'est un peu la même période où en France, les Osares et consorts font leur coming out, je vais dire, c'est-à-dire qu'on... On voit des documentaires, on voit des livres.
C'est après le travail de Raphaël Branch, voit après 2002, c'est ça.
Le travail de Raphaël Branch arrive à ce moment-là.
Tu sais pourquoi on t'a arrêté? Et Benmedi a répondu, oui, parce que vous avez eu de la chance. Et bien, c'est tes copains qui t'ont balancé.
Quand on présente les armes à un grand chef ennemi, ça veut dire qu'il va être exécuté.
Mais quand
tacitement.
Même,
Mais il était logique de l'exécuter.
Oui. Je voulais que je vous dise que c'est moi qui l'ai pendu.
Et cette fonction qu'on vous prête de nettoyeur, c'est-à-dire prendre des gens torturés, qui soit parce qu'ils sont vraiment amochés, soit parce qu'ils sont des ennemis tellement dangereux qu'on ne peut pas les relâcher, que Massieu, avec un grognement, vous indique que ces gens-là, si on les revoit plus jamais, c'est mieux. Vous aviez cette fonction-là de liquidation?
Oui. Oui. J'aime pas tuer, j'aime pas tuer, mais je le fais. J'aime pas tuer.
Donc, pour moi, c'est quelque chose qui fait écho à toute cette grande histoire qui ressort à ce moment-là, et je me dis, tiens, voilà. Non seulement il y a des Suisses qui ont participé à cela, mais ces actions ont été utilisées ensuite, pour faire de la propagande en Suisse par le FLN. Donc le FLN utilise d'une manière assez intelligente. Et donc voilà, c'était un petit peu nouveau. Il y avait quelques traces en Allemagne, parce que il y avait eu, au moment où je commençais un petit peu aussi mes recherches, un livre qui a été publié par un chercheur allemand et un chercheur français sur la République fédérale d'Allemagne et la guerre d'Algérie.
Celui de le livre de Jean-Paul Kahn.
Voilà, exactement. Et là, on a des passages sur la Légion, parce qu'il y avait énormément d'Allemands aussi à la Légion étrangère. Donc ces thématiques-là, moi, me reliaient en plus, ça m'ouvrait une nouvelle piste, la Suisse, l'Allemagne, les pays limitrophes de la France, et je me suis un petit peu inséré dans un courant qui naissait de chercheurs de ces pays limitrophes de la France qui se posaient ces questions. Quels ont été les impacts de cette guerre sur ces pays-là?
Mais j'ai besoin de vous reposer la question, Damien Caron. En quoi ce dossier-là des légionnaires est particulièrement important?
C'est un dossier, je dirais, qui nous permet de bien voir comment fonctionne la crispation de la France quand ce dossier algérien vient troubler les relations bilatérales, qui est un pays très important. La France pour la Suisse et la Suisse pour la France, à ce moment, sont des partenaires très importants. La Suisse veut faire stopper l'engagement des jeunes Suisses. Souvent, c'est des mineurs, parce qu'en France, c'est à 18 ans, la majorité, et en Suisse, c'est 20 ans. Donc, on a encore des mineurs qui s'engagent. Donc, c'est un dossier qui remonte à avant la guerre d'Algérie. Hein. On voit déjà apparaître, dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, des tentatives, je dirais, de régler ce problème par la voie politique, par la voie... Et donc, quand la guerre d'Algérie débute, et puis qu'ensuite on voit apparaître des actes de torture, on commence à connaître ce qui se passe sur le terrain, c'est une question qui devient éminemment politique, et puis qui va toucher l'opinion publique suisse. Donc dès le moment où l'opinion publique, et surtout l'opinion suisse-alémanique, il y a plus d'alémaniques dans la Légion que de Suisses romands, ça devient une pression aussi médiatique, une pression politique pour le gouvernement suisse. Et on aura une relation tendue avec les autorités françaises, qui va durer à peu près toute la période de la guerre. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est de suivre un petit peu les échanges. C'est-à-dire que si le gouvernement, le Conseil fédéral traite avec le Quai d'Orsay, on aura une même idée, une même approche, c'est-à-dire oui, effectivement, on comprend, on va essayer de trouver une solution. Mais après, on a une lecture interne à la France où la Légion est intouchable, où le Quai d'Orsay n'a aucune emprise sur l'armée, sur les décisions prises. Et en fin de compte, on s'aperçoit des tensions.
Ni le ministère de la Défense, parce qu'en l'occurrence, c'est le ministère de la Défense. Voilà. Oui.
Et donc en Suisse, après, je dirais dès 1955-56, mais ça reste en fait encore au niveau secret, on ne publie pas ces informations. Le Conseil fédéral dit que ça ne sert à rien, on n'arrivera à rien, à aucune solution globale avec la France, tant que la France est en guerre en Algérie. Donc là, il y a un abandon de toute possibilité de régler le sujet. On va essayer, pour des cas isolés, de faire fonctionner un petit peu les relais.
Politique au coup par coup.
Voilà. Hein. Mais ça change. Dès que sur le front, la tension se fait plus forte, on a besoin des légionnaires, donc la Légion se crispe. Donc il y a moins de contacts. Il suffit que le consul de Suisse en Algérie a un bon contact avec le responsable de la Légion pour que tout d'un coup, il puisse faire sortir deux ou trois Suisses. Mais le mois suivant ou six mois après, c'est de nouveau, la situation est de nouveau bloquée parce qu'on a décidé que c'est plus en Algérie que les décisions vont se prendre, mais à Paris. Donc on voit évoluer un petit peu cette guerre d'Algérie par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est une première dimension. Puis après, il y a la dimension que j'évoquais à...
L'utilisation politique faite par le FLN.
Le FLN va mettre sur pied une cellule pour aider ces jeunes légionnaires à quitter la Légion. Donc on a une voie d'évasion pour le Maroc. À la tête de cette structure, c'est un jeune Allemand qui s'appelle Wilfried Müller, qui va s'appeler Si Mustapha et qui va finir sa vie en Algérie, qui va être nommé responsable de cette cellule. Ils vont essayer de donner la possibilité à des légionnaires de s'évader. Ils les font transiter par le Maroc. Et là, il y a tout un système de propagande qui se met en place.
C'est un blanc-seing, on est bien d'accord. Voilà. Ils offrent un blanc-seing, une possibilité de sortie.
Voilà. Mais en contrepartie, il y a des témoignages qui sont publiés. Et ces témoignages-là sont ensuite rédigés et multipliés et envoyés à des contacts en Europe. En Suisse, il y en a plusieurs comme ça qui ont des contacts. Par exemple, ce si Mustapha est venu aussi en Suisse à plusieurs reprises chez Madame Brumagne. Il avait ces contacts-là. Il avait un contact avec un certain Rispi du côté de la Suisse alémanique qui faisait partie d'un comité anti-légion. Et ces témoignages-là vont être utilisés pour des campagnes de presse dans les journaux suisses alémaniques et notamment, justement, pour ces procès militaires comme caisse de résonance à des activités des soldats français sur le front.
Il y en a combien de ces procès ? On en a
processé... Alors, des procès, il y en a beaucoup par année, mais des procès où j'ai pu retrouver des traces de documents, il y en a très peu. J'ai fait un travail...
Il y a un double sens dans cette réponse.
Voilà, tout à fait. J'ai trouvé la trace d'un procès en me disant... Et je suis parti sur l'idée qu'il y en aurait peut-être beaucoup. On calcule entre 150 et 200 dossiers par année à l'époque. Bon, c'est difficile d'avoir accès à tous ces documents. Il faut une autorisation. Ensuite, le mode de classement empêche souvent de retrouver le dossier d'origine.
Astucieux.
Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas...
c'est un mauvais trait qui m'a échappé.
Mais effectivement... Alors, sur les peut-être 600 dossiers que j'ai commandés, j'en ai vu peut-être 400. Et sur ces 400, il y avait vraiment 200 qui concernaient des légionnaires qui étaient actifs en Algérie. J'avais pris sur 2 ou 3 années autour du procès dont j'avais trouvé la trace. Mais en fin de compte, j'ai trouvé vraiment 3 procès où on a des documents qui ont été ajoutés. C'est-à-dire que le légionnaire est venu à son procès avec des documents en disant « je veux que ça soit rajouté à mon dossier ». Donc c'est extrêmement peu par rapport au nombre de procès, bien sûr, mais c'est synonyme un petit peu d'une certaine action dirigée. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. En fait, après, en cherchant un peu plus loin, je me suis rendu compte que ces personnes avaient été en contact avec ce monsieur Rispi, suisse alémanique, et également avec ceci Mustapha. Donc on a vraiment 2 ou 3 procès en 1959 qui sont instrumentalisés.
Alors, une chose, Damien Caron, est l'intention d'instrumentaliser. Encore faut-il que la pièce mécanique que l'on a l'intention de faire bouger à son gré l'accepte. Et comme il s'agit en l'occurrence, non pas de pièce mécanique, mais d'espèce humaine. Alors, on a bien compris l'intention politique du FLN. Mais qu'est-ce qui fait que, précisément, le FLN va réussir ? C'est parce qu'il trouve en face des partenaires, si j'ose dire, dans cette instrumentalisation politique. Est-ce que vous pourriez nous dresser le tableau de cette Suisse politique-là, de cette Suisse officielle-là, parce qu'on la devine au travers de vos propos, non pas d'un bloc, non pas homogène, hétérogène et traversée de courants, ce qui n'est pas d'ailleurs une nouveauté dans le domaine de la politique.
Je dirais que le FLN, dans cette action-là, donc c'est à peu près à partir de 1957... Comment le FLN décide d'agir dans les pays limitrophes de la France ? La Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne.
L'Espagne aussi ?
Oui, oui. Juste pour dire, en fait, c'est simple, les réseaux dormants, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale se remettent en place. Pour toutes sortes de choses, c'est-à-dire faire passer des hommes, faire passer de l'argent, faire passer des armes. Et c'est intéressant parce que en Suisse, la Suisse alémanique, il y a des tensions aussi au niveau des Algériens, il y a la Fédération de France qui essaie de replier en Allemagne, essaie de prendre le contrôle de la Suisse alémanique.
Fédération de France.
La Fédération de France, c'est le FLN qui est en France et puis qui se replie avec Ali Haroun, qui se replie à Cologne et qui vont être accueillis au consulat, enfin l'ambassade de Tunisie et seront plus ou moins tolérés par le gouvernement Adenauer.
Les États-Unis sont-ils au courant? Les États-Unis étant quand même relativement en Allemagne à cette époque-là, c'est au nez, à la barbe, si j'ose dire, les Américains, ou avec leur accord?
Alors, je dirais que dans ma recherche, après coup, je sais que j'aurais dû aller aux États-Unis. J'aurais eu toutes les informations là-bas et j'aurais peut-être eu moins besoin de rayonner en Europe.
Non, mais vous auriez trouvé votre femme au pied de la piste d'atterrissage, vous interdisant l'accès à bord. Oubliez
ça. Mais effectivement, les États-Unis savaient beaucoup de choses, notamment ce qui se passe en Suisse, parce qu'ils sont très présents, on le sait. Je pense qu'ils étaient au courant de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ils vont utiliser aussi certains dossiers pour influencer leur action.
Donc n'interrompons pas effectivement le propos sur quel Suisse politique, quel Suisse officiel politique.
Alors, il y a deux niveaux. Il y a la population suisse et puis il y a la Suisse des partis. Je dirais que très rapidement, les Algériens font une analyse de cette Suisse et s'aperçoivent qu'il est très difficile de motiver les partis. C'est-à-dire qu'un parti, un homme politique suisse, ce sera difficile à le motiver, à s'engager ouvertement pour la cause.
Trop de risques, au fond.
Voilà. Il y a les partis des indépendants, Duttweiler, le patron de la Migros, qui les soutient. Donc là, on a un groupement politique. On voit, il y a des avocats qui sont proches de ce parti, qui vont soutenir les Algériens. Pour les autres partis, c'est plus difficile. Même pour le Parti socialiste, il y a des soutiens individuels et pas tellement des soutiens partisans. C'est par contre...
On est bien d'accord que nous sommes là dans les années 54, 55, 56...
Voilà, 57 à peu
57,
près.
Ouais. Hein.
L'analyse qui est faite par les Algériens est assez simple. C'est de dire, en Suisse, il y a des thématiques qui sont sensibles. C'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est la notion de petit pays neutre qui doit combattre contre l'envahisseur, ça marque. Donc on va jouer là-dessus. Il y a la Croix-Rouge, les bons offices, c'est là-dessus qu'on peut aller jouer. Côté alémanique, une des thématiques, c'est la Légion.
Pour satisfaire leurs besoins d'action, il y a des gens qui s'engagent à la Légion, d'autres sur des chantiers du service civil international. Il n'y a à la base qu'une différence de conception de vie. Mais puisque notre thème est la Légion étrangère, pourquoi le légionnaire se bat-il? C'est la question que nous avons posée à un jeune Suisse, engagé volontaire en Indochine pour des raisons affectives et rescapé de l'enfer de Dien Bien Phu.
Oh, il y a une grande part d'esprit sportif. En outre, il y a la parole donnée, n'est-ce pas, à respecter. On s'est engagé, on savait à quoi on s'engageait en le faisant.
Mais est-ce que ça n'est pas difficile, au fond, de se battre pour un idéal qui n'est pas forcément le sien, ou tout simplement de se battre sans idéal?
Mais on ne peut pas dire qu'on se batte sans idéal, n'est-ce pas? Enfin, je vous l'ai expliqué, cet esprit de corps, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais enfin, tenez compte, par exemple, pour Dien Bien Phu, tous ces gens qui se sont portés volontaires, cette compagnie entière de la 13, du dernier des deuxièmes classes au commandant de compagnie, ont sauté, se sont portés volontaires pour Dien Bien Phu, alors que il n'était pas pour une nécessité d'y aller. Se sont portés volontaires pour Dien Bien Phu, et presque au dernier moment, uniquement parce que le reste de la 13e des BLE était là-bas.
Vous pensez que le sacrifice, que le massacre de Dien Bien Phu était utile?
Si la France l'a jugé utile, il ne m'appartient pas d'en discuter.
Car vous ne réfléchissiez jamais sur ce qu'on vous faisait faire, sur ce qu'on vous demandait de faire.
Mais nous étions engagés volontaires.
Vous étiez logique avec vous-même?
Absolument.
Si vous étiez battu en Algérie, si vous aviez prolongé votre engagement et que vous aviez participé à ce qu'on a appelé la pacification de l'Algérie, est-ce que vous seriez battu avec la même foi?
Je ne me suis jamais posé la question.
Au fond, un légionnaire se pose très peu de questions.
Ça me doute assez peu, oui.
Il fait ce qu'on lui dit de faire.
Exactement. Il prend de la vie tout ce qu'elle lui offre de bon, et en outre... se conduit de façon assez standard.
Vous n'avez pas été appelé, de par cette soumission totale à vos chefs, à la Légion, à commettre des exactions en Indochine?
Non, absolument pas, à aucun moment. À aucun moment. Il ne nous a jamais d'ailleurs été donné d'ordre qui ressemble à ce que vous dites.
La Légion, c'est un sujet qui est très important pour la population. Donc c'est là-dessus qu'ils vont jouer. Ils arrivent à cibler les thématiques. Ensuite, c'est le début, je dirais, des mouvements estudiantins aussi, qui vont ensuite se développer dans la décennie après, mais ça commence là aussi. On a des groupements qui ne sont pas sur des bases politiques, mais sur des bases thématiques. Le soutien à... Il y a la guerre d'Indochine, il y a l'indépendance des pays africains qui se dessinent.
J'émettrais un doute. Vous dites, dans cette époque-là, qui est à ce point politisée, vous dites, c'est pas le... La première couche n'est pas politique, alors qu'on est en pleine guerre froide et que les opinions sont plus tranchées que jamais.
Bon, si on prend la guerre froide, hein, la lecture de ces premières années jusqu'en 1954-1957, la première lecture faite politiquement au niveau du Conseil fédéral et puis des autorités est claire. Il ne faut pas que la France bouge de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord et notamment l'Algérie est la clé, est le verrou, on va dire, sud de l'Europe pour empêcher l'invasion communiste. C'est les communistes qui pilotent la révolution algérienne ou alors la Ligue arabe ou l'Égypte. Mais là derrière,
n'oublions pas que Nasser est le second Hitler cette époque-là, dans les médias, dans les...
Pour dans la Suisse, il y a une petite différence, je dirais. Le rôle de Nasser et de l'Égypte est un petit peu différent. On a des intérêts beaucoup plus terre-à-terre à défendre. Donc... La crise de Suez n'est pas forcément quelque chose... Ça fait apparaître la guerre d'Algérie dans toute sa complexité. Dès 1955, on se rend compte qu'il faut ménager les deux côtés parce que les intérêts économiques suisses en Égypte sont suffisamment importants pour qu'on mette un bémol à une velléité de s'aligner derrière la France.
Comment pratiquer justement cette diplomatie du compromis, parce que c'est aussi, ça fait partie des choses qui, même s'il y a du savoir-faire, qui doivent souvent s'inventer au jour le jour. Est-ce que vous auriez peut-être, Damien Caron, un ou deux exemples, au travers des documents dans lesquels vous avez pu plonger, soit des notes personnelles, soit autres, qui vous ont fait comprendre, sentir à quel point il y avait, dans cette délicate opération diplomatique, des essais, des initiatives qui étaient prises comme ça un peu sur le fil?
Je dirais que pendant la guerre de Suez, il y a quelques initiatives intéressantes. Au moment où la crise éclate, en fin 56, où il y a vraiment le conflit, soit la Grande-Bretagne, soit la France demandent à la Suisse d'être le représentant de leurs intérêts en Égypte, ce qui est accepté côté égyptien. Donc là, on a une première position, on doit défendre les intérêts. Mais dans la même année, donc au moment où Nasser nationalise le canal, ils réussissent une opération, c'est-à-dire de faire changer les fonds, donc l'argent qui est dans les banques anglaises surtout, ils arrivent à sortir cet argent et venir les mettre dans des banques suisses. Il y a un afflux d'argent important. Et Nasser le dit. L'ambassadeur suisse qui rencontre Nasser à ce moment-là, et Nasser lui déclare officiellement la volonté de l'Égypte, c'est de faire de la place financière suisse la principale place financière pour gérer toutes les affaires, parce que de la Suisse neutre, on n'a rien à craindre. Donc en pleine crise de Suez, on a cette position à gérer. On a d'un côté la défense des biens de la France et de l'Angleterre, et de l'autre côté, on a cet afflux d'argent, cette position de l'Égypte par rapport à la Suisse qui est favorable, donc des intérêts suisses qu'il faut défendre aussi. Donc c'est comme ça qu'ils réagissent et qu'ils doivent gérer un petit peu. C'est pas simple. À deux reprises, pendant la crise, le Conseil fédéral va faire une proposition d'organiser une conférence pour résoudre les problèmes en Suisse. Cette conférence est plus ou moins refusée par tous les belligérants, sauf la Russie, qui attend que tout le monde dise non pour dire « nous sommes d'accord ».
Pour la paix, bien
voilà,
sûr.
Nous sommes pour la paix dans le monde. Au moment où les chars rentrent en 56 en Hongrie. Donc on a ce double langage.
Pour maintenir la paix, hein, bien sûr.
Aussi. Ouais. Donc on a une réaction qui est un petit peu, une lecture qui est difficile. Il faut s'imaginer, on est à Berne. En 1954-1955, il y a de nouveau eu des conférences importantes qui ont été organisées en Suisse, sur le territoire suisse, notamment à Genève. Donc la neutralité suisse qui a passé un petit peu par un moment de purgatoire à la sortie du deuxième conflit mondial est réhabilitée. Donc on essaie de jouer cette carte-là en se disant on a un rôle à jouer, on peut être un partenaire, mais ça ne fonctionne pas. Parce que les intérêts se retrouvent gérés à un autre niveau. Et là, c'est clair que le conflit de Suez, c'est l'apparition vraiment sur l'échiquier mondial de la Russie et des États-Unis avec une mise au deuxième plan de la France et de la Grande-Bretagne. Mais ce conflit, pour moi, c'est un bon moment parce qu'on s'aperçoit de la complexité d'une intervention. Les informations qu'on a ne sont pas toujours à la pointe. On n'a pas les bonnes informations au bon moment.
Et puis l'instrumentalisation est là en permanence.
Voilà.
De tous les côtés.
Voilà. C'est clair que cette clé de lecture, guerre froide, ensuite conflit de Suez, les Égyptiens soutenus aussi par les communistes, cette clé de lecture-là existe toujours. Donc l'explication qu'on donne, c'est qu'il faut que la France reste pour empêcher cela. Mais à partir de 57, il y a un renversement.
Pourquoi 57?
En 57, il se passe quelque chose en Suisse qui va faire un choc, qui va provoquer un choc, c'est le suicide du procureur de la Confédération.
Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie. De Sétif à Évian, neutralité et engagement. L'affaire Dubois, racontée en 1988 par Jacques Sanger.
Le procureur général de la Confédération s'est suicidé. Ce magistrat s'est fourvoyé dans une histoire de basse police. Il a couvert son subordonné, l'inspecteur Max Ulrich. Ulrich a mis sur table d'écoute la légation égyptienne et transmis à un colonel Barbouze français des informations concernant le FLN. Épicentre du drame, l'ambassade de France à Berne. Dans le rôle de l'honorable correspondant, Marcel Mercier, faux attaché commercial et vrai colonel des services secrets français.
Henri Guillemin.
À propos du procureur, il a dit simplement ceci un jour. J'ai ferré une très grosse pièce.
C'est un gros poisson,
Un gros poisson.
Mercier a raison. Le procureur Dubois est un gros poisson. Ce n'est pas tous les jours qu'on manipule un magistrat de ce rang. Malheureusement, il s'est trop vanté.
On va découvrir le pot aux roses grâce à une ancienne secrétaire du général de Gaulle, Elisabeth de Miribel, attachée de presse à l'ambassade. Elle est écœurée des magouilles de Mercier et va tout raconter à un certain Serge Michel, journaliste français qui a fait sienne la cause algérienne.
Serge Michel.
Il me dit qu'elle était persuadée que Mercier était renseigné par des personnalités de rang élevé de la police suisse et de la justice. Vous ne pouvez pas me dire très exactement qui. Dans une première rencontre, je l'ai revue plusieurs fois, et elle a vérifié elle-même dans le bureau de Mercier. Et là, elle a acquis la certitude qu'il était en contact avec René Dubois et qu'il s'agissait de récupérer les écoutes de certaines ambassades qui étaient en contact à Berne avec le FLN.
Ce fameux Mercier, l'historien Henri Guillemin l'a souvent côtoyé lorsqu'il était lui-même conseiller culturel auprès de l'ambassade. Il nous en brosse un portrait peu flatteur.
C'était un homme d'une jovialité permanente. Il était survolté, il était très content de lui-même et d'une vulgarité accablante. C'était un homme qui se vantait beaucoup de ses succès féminins, et je sais qu'il avait un harem de serveuses, mais je l'ai vu aussi opérer devant des dames qui n'étaient pas des serveuses, avec une manière qu'on peut appeler à la hussarde, qui ne réussissait pas toujours, mais dont il était quand même très content. Il nous parlait de son travail en nous disant, vous savez bien ce que je fais ici, j'étais d'obtenir des renseignements sur le GPRA. J'aurais dit que la plupart de ces renseignements venaient, disait-il, des Égyptiens.
Décidément, ces gens-là ne sont pas du même monde. On l'aura compris, M. Mercier n'avait aucune chance de séduire Mademoiselle de Miribel.
Bref, c'était une personne que Elisabeth de Miribel voyait dans sa loge. Et elle me donne donc ces informations. Je réfléchis longuement.
Le seul moyen de stopper les manœuvres de Mercier et Dubois, c'est de les faire connaître au public. Serge Michel demande conseil à son ami Favreau, qui lui suggère de confier ses informations à Georges-Henri Martin, rédacteur en chef de la Tribune de Genève.
Georges-Henri Martin.
Quelqu'un m'a téléphoné de Berne en me disant, si vous vous trouvez à telle heure, au buffet de la garde première classe de Lausanne, à tel endroit, vous rencontrerez un monsieur qui est comme ci et comme ça, qui vous dira des choses intéressantes. La chose intéressante, c'était la confirmation, parce que c'était quand même très grave d'accuser les hauts fonctionnaires de la police fédérale d'écouter l'ambassade d'Égypte ou la légation d'Égypte et puis de porter les enregistrements aux Français. On ne sait pas, une accusation qu'on pouvait porter à la légère. Il y avait déjà des jours et des jours et des jours qu'on essayait de trouver des confirmations.
Serge Michel.
Finalement, devant l'importance de l'information, il n'a pas hésité. Il a tout de suite dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi vous me faites confiance comme ça immédiatement? Il me dit, parce que ça recoupe des informations que j'ai eues. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis arrivé avec le gros paquet, mais le terrain était déjà tiède.
C'est ainsi que la Tribune de Genève publie le 20 mars 1957 un scoop fracassant, qui ne met en cause pour l'heure que l'inspecteur Ulrich. Trois jours plus tard, le procureur général Dubois, accablé par les révélations que Mercier fait spontanément à la police, va se donner la mort.
On a vu en lui, à tort ou à raison, un personnage porté au pinacle, puisqu'il était devenu procureur général de la Confédération.
Georges-Henri Martin.
Peut-être un peu naïf, et que les Français invitaient à venir à Paris à faire des gueuletons, ça n'allait pas plus loin. On ne considérait pas que c'était un grand drame. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il n'avait pas les nerfs solides. Et évidemment, un procureur général, on pensait que ça avait les nerfs solides. Et quand il s'est suicidé, tout le monde était navré. C'était pas particulièrement nous, on ne se considérait pas comme responsables.
Henri Guim.
L'ambassadeur, il disait, c'était une sale histoire. Je suis bien heureux d'avoir regardé, d'avoir mis à l'extérieur de moi, enfin d'avoir rien qui puisse me mêler au comportement de M. Mercier.
Il y a eu un discrédit qui a pesé sur l'ambassade. Oui.
Sur l'ambassade, malheureusement, oui, parce qu'on croyait, on se figurait à l'extérieur, on se disait c'est un membre de l'ambassade, c'est pas vrai.
Serge Michel.
Par la suite, j'ai été étonné qu'on ne fasse pas de film sur cette affaire, parce que c'est une affaire beaucoup plus complète, c'est une histoire où il y a une histoire d'amour à l'intérieur, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de jalousie, il y a des histoires extraordinaires.
Affaire du bois, donc, 1957, Damien Caron, un suicide, des relations compliquées avec un service mal connu, pas très bien documenté, le SDEC, qui est jeune, qui est créé en 1946, donc il y a en gros une dizaine d'années, mais apparemment déjà pas mal d'expérience. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Je sais que dans votre travail, vous avez dit, je ne pourrais pas vous dire exactement au jour le jour, heure par heure, ce qui s'est passé. En revanche, je peux vous parler franchement des rebondissements que cette affaire a eu lieu. Mais prenons le temps déjà quand même de caler dans l'esprit de tous l'affaire.
Donc l'affaire, qui est un véritable séisme politique, a des ramifications important dès le départ, dès la nomination, je dirais, de ce procureur, René Dubois, qui est le premier procureur socialiste que l'on a en Suisse et qui a été soutenu par le Conseil fédéral Feldmann, qui est parti UDC actuel, si on prend le nom actuel. Donc il y a, au grand dam du Parti radical, qui avait un peu la main mise sur ce poste jusque-là. Donc il y a déjà un séisme politique quand Feldmann impose cette personnalité-là et qui commence son travail en 1956. Et dès ce moment-là, on a à la tête du ministère public une personne qui est francophile, socialiste, et qui va serrer la vis, on sent tout de suite, à la politique de tolérance, ou en tout cas de la venue des Algériens en Suisse. Ça correspond également au moment où, 56, c'est le moment où les Algériens commencent à venir de manière plus importante. Donc on a des gens comme Ferhat Abbas, c'est des gens qui viennent s'installer. On a une politique de présence qui est décidée par le FLN dans les pays donc à l'extérieur. Donc l'action de ce nouveau procureur va se faire sentir assez rapidement. Il y a aussi une action de renforcement du ministère public et des services qu'il va essayer de mettre en place. Et arrive en fait là-dessus, on va dire, l'action justement du SDEC et d'un certain Marcel Mercier.
Et ce Marcel Mercier, il arrive d'où? On a un peu des renseignements sur son passé. J'ai été regarder un petit peu à droite à gauche. Il aurait peut-être appartenu à tel ou tel réseau, mais alors il est d'un anonymat parfait, cet homme-là.
Bon, moi ce que j'ai pu retrouver comme trace, c'est qu'il semblerait avoir été placé après la Deuxième Guerre mondiale, à Berne. À Berne, c'est une des zones où se mettent en place pas mal de services secrets, notamment les États-Unis.
Plaque tournante de l'espionnage.
Tout à fait. Donc il semble avoir des réseaux, des liens avec, par exemple, le réseau Gehlen en Allemagne et les États-Unis. Donc il semble qu'il y ait des choses qui se mettent en place dès le lendemain, dès la sortie du conflit mondial. Le but de ces réseaux est clairement anticommuniste. C'est la lutte anticommuniste. On utilise toutes les sources possibles récoltées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être actif contre les communistes. Mais au début du conflit algérien, une nouvelle tâche est attribuée au service de Mercier, c'est justement la lutte contre les nationalistes algériens qui va prendre de plus en plus d'importance au fil des années du conflit. Depuis 1946, il a eu le temps, et ça c'est difficile de prouver, difficile de montrer, il a eu le temps certainement d'avoir des liens avec les différents services de renseignement suisses. À l'époque, et ça va être encore le cas pendant l'affaire Dubois, il y a des tensions entre le ministère public et le service de renseignement du département militaire. Il y a des grandes tensions. Et il semble que là, il y ait des liens qui vont jouer aussi dans cette affaire. Un des liens importants, c'est le lien qu'il a pu avoir avec un policier qui s'appelle Ulrich. Après, il y a des embranchements, on va dire, plutôt suisses de l'action que Dubois aurait eue avant d'être au ministère public. Il y a des antagonistes qui viennent de plusieurs endroits, on va dire, avant qu'il soit nommé à son poste. Ça, c'est une première explication de peut-être ce qui va se passer. Après, on va essayer parce qu'après, il y aura des théories qui vont se mettre en place pour essayer d'expliquer pourquoi il en est arrivé là.
Au suicide.
Mais la première chose, ce qui nous relie à la guerre d'Algérie, à la guerre d'indépendance algérienne, c'est le fait qu'on veut avoir accès à des informations. Or, on sait que, en Suisse, à Berne, l'ambassade d'Égypte est un lieu central, un lieu important de soutien à la cause algérienne, soutien pour les papiers, soutien logistique. Donc on va essayer par tous les moyens, et les moyens on les connaît, c'est la mise sur écoute, pour avoir accès à ces informations. Donc je pense qu'il y avait déjà des liens avec Ulrich qui existaient déjà, mais le grand travail va se tourner sur le procureur. Donc le côté francophile et socialiste va être mis à profit, et au moment où Guy Mollet est au pouvoir en France, il y a une invitation qui est faite, il y a un voyage qui est organisé du procureur à Paris. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble qu'il y ait eu des liens à partir de là. Donc 56, comme je le disais, on a une politique plus restrictive vis-à-vis des Algériens. C'est la crise de Suez. C'est le détournement de l'avion avec les nationalistes algériens de retour du Maroc. Il y a des choses importantes qui se passent à ce moment-là, qui ont permis l'organisation de cette chose-là, ont certainement transité. Est-ce qu'elles ont transité grâce aux informations trouvées? Ça, c'est une question qui reste encore aujourd'hui ouverte.
À l'aéroport de Rabat, le départ du sultan pour sa visite officielle à Tunis avait revêtu l'éclat traditionnel des départs de souverains. Mais, détail imprévu, le terroriste Ben Bella et quatre autres chefs de la rébellion algérienne se trouvaient sur l'aéroport pour accompagner Sa Majesté Mohamed V. À Tunis, rien n'avait été épargné pour donner à cette visite tout l'éclat possible, et ce, en dépit des mises en garde officielles du gouvernement français contre cette attitude pour le moins inamicale. Cette visite, prévue pour plus d'une semaine et au cours de laquelle devaient s'insérer des conversations auxquelles déjà étaient convoqués les représentants des hors-la-loi algériens, devait cependant prendre une tournure totalement différente. Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers.
Excellence, voulez-vous commenter pour nos auditeurs la situation créée entre la France et le Maroc par l'arrestation de M. Ben Bella et de ses amis?
L'arrestation des leaders du mouvement algérien affecte très durement les rapports franco-marocains. Le gouvernement français a accompli, à notre sens, un acte insensé et qui restera longtemps incompréhensible. Qu'on comprenne un peu le sentiment du peuple algérien, de l'Algérien en général. L'Algérien est un homme qui a vécu pendant plus de 120 ans, 130 ans, dans la condition diminuée d'un homme qui n'a pas de nationalité. En 1946, on lui a donné une sorte de nationalité diminuée, condition beaucoup plus humiliante. C'est un homme qui a vécu dans l'humiliation. C'est un esclave qui se révolte. L'affaire d'Algérie, c'est Spartacus. Eh bien, les Algériens combattent. Et dans l'exaltation du combat, ils trouvent toute l'affirmation de la liberté.
Merci, Excellence.
Mais le tout est que, pendant l'année 56, il y a des bruits qui s'échappent. À plusieurs reprises, le Conseil fédéral Feldman reçoit des informations comme quoi il y aurait des irrégularités du côté des services du ministère public. Ces informations transitent des services de renseignement de l'armée. Feldman, Chauden ne sont pas vraiment les meilleurs amis.
Ça, ce sont les notes que vous avez consultées, hein, vous les avez dans les yeux.
Ouais. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que Feldman note tout. À la minute
ça, c'est bien,
près.
Ça. C'est...
Depuis qu'il a 18 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il a une cartothèque, il a des thématiques. Donc c'est une source particulièrement intéressante. Donc on a des indicateurs qui se mettent au rouge pendant cette année 56. Mais tout se précipite en 57, en début d'année 57, quand tout d'un coup il y a des déclarations qui sont faites dans la presse. Et ces déclarations, encore une fois, c'est difficile de savoir comment elles sont arrivées là. Une des pistes que j'ai pu suivre, c'était la piste d'Elisabeth de Miribel, qui travaille à l'ambassade de France à Berne, qui est vraiment quelqu'un qui sort du milieu de la résistance et qui ne supporte absolument pas le contact avec une personnalité, un personnage comme ce Mercier, qui à un moment donné va faire sortir les informations. Les informations vont rapidement atteindre les journaux et la presse. Donc la formation, c'est qu'on a mis sur écoute l'ambassade d'Égypte. Donc on est au début 57, on sort justement de la crise de Suez. C'est une tension politique encore palpable. On veut surtout pas avoir de problème avec Nasser à ce moment-là. Donc on marche sur des œufs. Et là, Feldman demande la mise sur enquête d'Ulrich, de ce policier, parce qu'il y a des informations qui disent que c'est Ulrich qui serait la source. Donc il demande au procureur de la Confédération de mettre ce personnage sur surveillance. On l'arrête, et au moment où on l'arrête, tout se précipite. C'est-à-dire que, pour faire bref, le procureur va se suicider, et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il était aussi impliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il y a eu ce suicide et puis qu'on essaye d'élucider la chose, il y a une rencontre qui se fait dans un restaurant à l'extérieur de Berne entre un conseiller fédéral, Feldman, et ce Mercier. Et il y a une discussion qui est retranscrite ensuite par Feldman, où Mercier essaye de défendre un petit peu son dossier en disant « c'est pas Ulrich, c'est tout, le procureur, voilà, il a accepté de travailler, maintenant il ne faut pas charger Ulrich n'en peut rien ». Et puis il sort des pistes un petit peu. Et parmi ces pistes, il y a une piste intéressante, c'est l'action des États-Unis, des Américains qui auraient travaillé avec les Égyptiens pour soutenir, une sorte de soutien aux Algériens. Donc on a une action qui est difficile à cerner, mais on sent que les États-Unis, les services américains ne sont pas loin de ce dossier. Et que là, c'est un moment clé où la France perd le soutien total sur le front algérien, ou elle va le perdre complètement au niveau suisse, parce que c'est la preuve que les Français sont actifs sur le territoire de la Confédération, au mépris des lois, au mépris du respect de la souveraineté. Et là, ce scandale qui va provoquer, entre guillemets, indirectement le décès rapide du conseiller Feldman qui décède une année après, il témoigne dans ses notes d'une guerre des nerfs qui dure des mois et des mois par la suite. Il y aura un procès qui va être organisé sur Ulrich. On va publier les informations qui ont été données. Et chose intéressante, la liste qui est donnée dans les dossiers, donc qui n'est pas publiée à l'époque, mais la liste des sources distribuées, donc concerne pratiquement tous les Algériens. C'est le contrôle des frontières, le contrôle de la police, enfin tout ce qui est concerné. La seule chose qui n'est pas listée, dont on n'a absolument aucune trace, c'est le contenu des écoutes. Donc aujourd'hui encore, on ne sait pas quel type d'information on a pu avoir, ou les Français ont pu avoir, en ayant mis l'ambassade d'Égypte sur écoute. Toutes les spéculations sont encore un petit peu ouvertes. On peut dire que si dès 56 on a l'ambassade sur écoute, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être prises à cette source-là. Maintenant, moi, j'arrive pas avec les sources que j'ai à montrer plus.
Damien Caron, votre travail sur 10 ans est désormais l'objet d'un livre. Il sera très intéressant pour tous ceux qui se passionnent pour cette période de croiser votre travail avec celui d'Henri Laurence, qui, dans sa série sur la question de la Palestine, approche de très près cette période sur la crise de Suez, et particulièrement sur les relations difficiles à l'époque entre États-Unis et Israël, et les relations beaucoup plus proches, avant de Gaulle, entre Israël et la France, et le rôle de la Grande-Bretagne. Je rappelle d'ailleurs pour mémoire que Shimon Peres, qui a alors 29 ans, s'est vanté largement après coup d'avoir son propre bureau auprès de celui de Guy Mollet, à l'intérieur même de celui où se trouvait donc le premier responsable de la France. Peut-être est-ce un peu de la parade de la part de Shimon Peres, peut-être cela contient-il de la vérité. Alors, Damien Caron, vous nous donnez d'abord le titre de l'ouvrage, parce que, à vous entendre, beaucoup vont vouloir se le procurer. Donc ça s'appelle ?
Ça s'appelle La Suisse et la guerre d'indépendance algérienne.
Édité chez
aux éditions Antipode.
Bon, alors ce que je vous propose, Damien Caron, c'est qu'on continue quand même cette discussion dès demain, parce qu'on a eu l'affaire Dubois, on aimerait bien avoir les résonances, on aimerait bien aussi en savoir un petit peu plus sur l'intérêt que pourrait bien avoir la Suisse, malgré tout, à jouer quelque chose dans ce règlement entre la France et l'Algérie. Donc, rendez-vous à demain. Demain, à la suite de cette évocation, nous retrouverons l'historien Damien Caron.
A été présenté par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rocha, Daniel Zacker, Valérie Dantan et Jean-Philippe Tvalen. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez La Première et il est 21h.